On fait le cours que pour toi ce soir.
Trop sympa, merci.
Allez, monsieur, bonsoir, Erev Tov. Est-ce qu'on a quelqu'un à souligner ce soir? Pas rien. Ok, ça marche. Allez, on est... ouais, bien sûr, pour la Refoua Shelema de... Ah oui, de Rav Menaché, bien sûr.
David
Ben Esther. Et de tous les malades du peuple d'Israël, notamment Yitzhak Ben Paulette, notre ami Eric, Eliaou Ben Mahlouf Shetrit. Et tous les malades du peuple d'Israël. On a de bonnes nouvelles pour tout le monde. Alors, ce que je voulais voir avec vous ce soir, c'est un sujet assez intéressant qui essaie de résumer finalement, quelles sont les activités du Kohen lorsqu'il est intérieur du Beth Amikdash. Puisqu'entre les parachiotes de Terouma, de Tetzavé, Vayakel, Pekoudé, on nous parle donc des ustensiles du Mishkan, de la construction du Mishkan, des vêtements des Kohanim. Tout ça, c'est très intéressant, bien évidemment, mais c'est en vue de quoi? Il ne s'agit pas simplement de construire, il ne s'agit pas simplement d'avoir de beaux vêtements. Il y a aussi un projet, d'accord? C'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de l'enceinte du Mishkan? Et en fait, on peut résumer les choses en trois points extrêmement simples. C'est qu'en réalité, le travail du Kohen se résume à trois choses. Premièrement, c'est les korbanot, les sacrifices. Deuxièmement, c'est l'entretien et l'allumage de la menorah. Troisièmement, les ketoret, les encens.
Kohen Gadol ou Kohen?
Kohen.
Kohen.
Kohen. Parmi les Kohanim, il y a bien évidemment la spécificité du Kohen Gadol, avec quelque chose de particulier le jour de Kippour, etc. Mais les Kohanim, l'activité du Kohen, elle se résume à ces trois points-là. Un Kohen est fait pour quoi? Il est fait pour trois choses à l'intérieur du Mishkan, les korbanot, la menorah et les ketoret. Il y a plein de sous-détails, bien évidemment. Mais si on enlève tous ces petits détails techniques, etc., en réalité, il y a trois chapitres. D'accord? Il y a trois piliers dans le travail du Kohen, pas 50. Et c'est vrai que de voir les choses comme ça, ça nous permet de dire, ah ben voilà, ok, voilà ce qu'il fait le Kohen. Il fait des sacrifices. Quand je dis sacrifice, c'est même pas la shrita. Hein. Je vous rappelle que la shrita des korbanot, elle est autorisée par les étrangers, ceux qui ne sont pas Kohen. L'obligation du Kohen, c'est à partir du moment où il récupère le sang du korban. Donc juste après la shrita. Il y a la shrita, cette étape-là peut être faite par le propriétaire du korban. Elle peut aussi être faite par le Kohen, mais pas nécessairement. D'ailleurs, le Zohar nous dit qu'il est conseillé au Kohen de ne pas faire la shrita des korbanot. Pourquoi? Parce que le Kohen n'est que dans la miséricorde et la shrita, le geste shrita, c'est un geste de rigueur. C'est un geste qui est lié au fait de retirer la vie. Donc, il peut le faire, mais il est conseillé que ce soit le simple propriétaire qui le fasse pour son korban. Mais donc, quand je dis l'activité du Kohen, c'est les korbanot, c'est pas nécessairement la shrita des korbanot. C'est récupérer le sang, c'est brûler les morceaux, c'est couper la viande, etc. C'est le boulot du Kohen, donc ce qu'on appelle les korbanot. Le deuxième boulot, c'est la menorah, l'allumage de la menorah, l'entretien de la menorah. Et le troisième, c'est les ketoret, dont on parle dans la parasha qu'on a lu cette semaine, qui est d'ailleurs un sujet en soi extrêmement intéressant. Ça va être un peu le cœur de notre cours, la première partie de ce soir. D'accord, d'essayer de comprendre qu'elles représentent les ketoret dont on parle dans la paracha de la semaine. Donc, trois activités, c'est clair. Sur ces trois activités, nos chachamim se demandent laquelle est la plus importante. Les korbanot, la menorah ou les ketoret. Alors, à chaque fois qu'on est confronté à ce genre de questions, on est un petit peu gêné. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on n'aime pas créer de hiérarchie entre les mitzvot, on le dit partout, il ne faut pas créer de hiérarchie, Certes, on n'est pas en train de dire qu'il faut créer une hiérarchie, mais malgré tout, les répercussions spirituelles de ces trois activités menées par le Kohen ne sont pas les mêmes. Il y a certaines activités qui ont plus d'implications que d'autres. Et donc, en fait, c'est ça la question que pose nos Chachamim sur les trois activités essentielles du Kohen. Laquelle est, entre guillemets, la plus importante, c'est-à-dire laquelle a le plus d'incidence d'un point de vue spirituel. Et la réponse, sans équivoque, de la part de nos Chachamim, c'est que sur les trois, le plus important, c'est les ketoret. c'est pas celui qui est le plus impressionnant, ce n'est pas celui qui est le plus visible, et pourtant, nous disent nos maîtres, c'est le plus important. D'où est-ce qu'on le sait ? Alors on a quatre preuves qui viennent nous le montrer. La première des quatre, c'est par rapport au Hegel Azav. Vous savez, il y a la faute du Hegel, du veau d'or, et on nous dit la chose suivante. C'est dans le Midrash Tanhuma sur la paracha qu'on a lu cette semaine. D'accord ? Sur le paragraphe, justement, des Ketoret, de l'encens. On nous dit comme ça. Le Midrash pose une question. Marisco shel Mizbach HaKetoret. La question est simple. À quoi sert l'autel des encens ? Là, on brûlait les encens tous les jours. Et on répond comme ça. Kevan she'asu oto ma'aseh shel Hegel HaZahav. On connaît tous les débuts de ce midrash où on nous dit que lorsque les enfants d'Israël malheureusement ont façonné le veau d'or et qu'ils ont dansé autour du veau d'or et que Moshe descend à ce moment-là, on nous dit très clairement qu'Hachem a eu la volonté d'anéantir le peuple d'Israël. C'est terminé. Ils viennent de sortir d'Égypte, ils retombent dans l'idolâtrie, quelle que soit la définition de l'idolâtrie dont on parle, ça s'appelle malgré tout de la Avodah Zarah. Akadosh Baruch Hu dit ça y est, c'est terminé, c'est pas le bon peuple. On va recommencer, on va repartir à zéro avec toi, Moshe, d'accord, avec tes propres enfants, ta descendance, on va faire un nouveau peuple. Bien. Comme d'habitude, Amad Moshe, Bikesh Aleim Rachamim. Moshe ne peut pas accepter cette idée-là. Il se lève, il fait face à Kadosh Baruch Hu et il demande miséricorde pour le peuple d'Israël. Comme on le dit dans la paracha qu'on va lire cette semaine, Vaïchal Moshe et Pene Hashem, que Moshe va implorer la face et la colère d'Akadosh Baruch Hu pour essayer effectivement de l'apaiser. Et le texte nous dit dans le Midrash, et là encore on revoit la volonté des Chachamim de nous montrer que nos grands maîtres sont des êtres humains. On nous dit que Moshe Rabbeinu a tapé des pieds sur place sans bouger. Il a tapé des pieds jusqu'à Hachem lui dise « c'est bon, arrête, ne t'énerve pas, c'est bon, je pardonne au peuple ». D'accord ? Comme un enfant gâté qui va se jeter par terre en disant « je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'accordes pas ce que je te demande ». Moshe, en faveur du peuple d'Israël, se met dans une telle situation et dit « je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'accordes pas le pardon au peuple d'Israël ».
Il ne s'énerve pas.
Mais... Non, il ne s'énerve pas, au contraire. Il fait un caprice. Il dit « je ne bougerai pas d'ici ».
Alors que dans d'autres passages, pour moins que ça, Dieu a tapé, a sanctionné.
Et ouais, exact.
Non, mais pour dire que comment ça se passe ? Comment il a osé taper du pied ?
Ben, en fait...
Bon, des fois, je ne sais pas, je crois qu'il a tapé le bâton contre... En bas de la rue, il a tapé le bâton.
C'est différent. C'est différent. Parce que lorsqu'il s'agit d'un individu comme Moshe qui commet une faute, ouais, quelle que soit la faute et la définition de la faute de Moshe, d'accord, lorsque c'est un individu à ce niveau-là spirituel qui commet une faute, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. On ne peut pas fermer les yeux. Quand il s'agit de la collectivité du peuple d'Israël... Non, on n'en a pas d'autres. On n'a pas d'autres. Ou il n'y aurait pas eu l'accord d'Akadosh Baruch Hu, il n'y en a pas. Là, c'était vraiment vital. Ça veut dire que si Moshe ne passe pas sa prière maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de peuple d'Israël.
Sa prière, je comprends.
Mais oui, mais la façon de le faire, en disant... En fait, qu'est-ce que veulent nous dire les Chachamim ? C'est que pour Moshe, c'était inconcevable qu'il se sorte de cette prière sans avoir été exaucé. C'est pas possible. D'accord ? Donc, il met les formes. Il met vraiment le caprice d'un enfant gâté, mais nos Chachamim nous disent. Mais Hachem, il aime les enfants gâtés. D'accord ? Il aime que Moshe défende son peuple et qu'il aille à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, etc. C'est même ce qu'il attend. C'est pas simplement ce qu'il aime, c'est qu'il attend ça de la part d'un dirigeant du peuple. Donc, Moshe, il tape des pieds, il dit « je ne bougerai pas d'ici tant que tu pardonnes pas le peuple d'Israël ». Bien. La réponse, on la connaît. « Ad she'amar Akadosh Baruch Hu » Vaïnachem Hachem alara. Jusqu'au moment où Hachem dit c'est bon, ça l'artikit varecha, c'est bon, j'ai pardonné, c'est bon, t'énerve pas, retourne dans ta tente, d'accord, tout va bien se passer, il n'y a plus de problème. Amar Moshe, mais quand Moshe il entend ça, il dit ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas que tu me dises et que moi j'aille dire au peuple d'Israël que tout est bon, que tout est lavé, que tout est propre. Il demande une preuve visible du pardon d'Akadosh Baruch Hu pour que jamais les nations du monde puissent avoir un doute sur le sujet en disant « Vous, peuple d'Israël, vous n'avez toujours pas été pardonné pour la faute du veau d'or et que depuis la faute du veau d'or, Dieu vous a abandonné et qu'il n'a pas admis cette faute-là. » Donc Moshe, il dit « Je ne vais pas partir comme ça juste avec une parole. Hein. Une parole, ça ne me suffit pas parce que je vais dire à tout le monde « Non, c'est bon, il nous a pardonné. » Mais tout le monde va nous dire « Bah non, c'est pas vrai, c'est votre chef qui vous l'a dit, c'est inventé de toutes pièces. » D'accord, il nous faut une preuve. Donc Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi une preuve. Toujours pareil. Oui, mais c'est son rôle. C'est son rôle. De quoi, de quoi? Non, certainement pas. Il aurait été sanctionné de ne pas être intervenu. Il le dit lui-même. Moshe lui-même, il dit, tu te rends compte, Hachem, si j'accepte ton projet, c'est-à-dire que tu anéantisses le peuple et que moi, je sois le nouveau père d'une nouvelle nation, tu te rends compte? Qu'est-ce que je vais dire, moi, après 120 ans, quand je vais mourir? Et que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont me poser la question, ils vont nous dire, ah, mais il est où ton peuple? Il est où notre peuple? D'accord? Alors, et que toi, Moshe, tu vas dire, ah bah c'est bon, il y en a un nouveau, c'est moi. Moshe dit, mais j'aurais même pas la face de me présenter devant Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils vont me dire quoi? Ils vont me dire que, en fait, parce que c'était pour mon kavod, alors que pour mon kavod, j'ai accepté de laisser mourir le peuple d'Israël. Il a dit, c'est hors de question, je peux pas faire une chose pareille.
Il a fait le tikkun de noir.
Donc... Bien sûr, et c'est bien évidemment le tikkun de noir. Donc, donc c'est le tikkun de noir, c'est évident. Donc, on revient. Moshe, il dit, donne-moi une preuve, je veux une preuve visible. Réponse à Kadosh Baruch Hu, ok, tu veux une preuve, je t'en donne une. Amarlo, ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Il dit, ok, demande-leur de construire un Mishkan, et à travers le Mishkan, je vais résider au sein du peuple d'Israël, et voilà, ça sera visible, c'est clair. On a rétabli le lien entre nous, on a rétabli un lieu de rencontre entre le peuple et Akadosh Baruch Hu. Ça va, Moshe? Ça te va ici? C'est bon? Il dit, bah non, il me manque encore. C'est pas assez. C'est pas parce qu'on construit une maison en ton nom que c'est la preuve que tu nous as pardonné. Il nous faut quelque chose de plus. Alors Hachem, il leur dit, il dit à Moshe, non, mais dans ce temple, il y aura des corbanotes. Et les corbanotes, ça sera un signe que je me suis rapproché de vous. Pourquoi? Parce que pour faire les corbanotes, il y a un feu qui va tomber du ciel, qui va manger et consumer le corban. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme preuve? Elle est bien, non, comme preuve? C'est bien la preuve que je vous ai pardonné. C'est bon, maintenant, ça te satisfait? Moi, j'ai dit non, ça ne me suffit toujours pas. Bah oui, pourquoi ça ne te suffit pas? Parce que là, du coup, ce n'est pas pour moi, c'est surtout pour toi. Parce que si tu demandes des corbanotes, c'est quand même un peu gênant. Parce que ça pourrait laisser croire aux nations du monde ou aux hommes de manière générale que tu manges. C'est pas noble, d'accord, de dire qu'Hachem, il veut de la viande, il mange de la viande, il a l'odeur de la viande, etc. C'est pas super raffiné, quoi, d'accord. Ça ressemble à un être humain qui a des besoins et qui vient manger. C'est pas super par rapport à la Vodazara, ça ressemble un peu à la Vodazara, etc. T'as pas autre chose? Hachem, il dit, ok, il y a autre chose. C'est quoi l'autre chose? C'est qu'en plus des corbanotes, en plus du temple, en plus des corbanotes, vous ferez également des kétorettes. Et que les kétorettes seront la preuve ultime du pardon de la faute du veau d'or. Parce que là, du coup, c'est un corban. Je vous rappelle que les kétorettes, c'est considéré comme un corban. Donc c'est quand même un point de jonction. C'est un point de jonction. Mais qui n'a pas le défaut de dire « Ah, je vais manger quelque chose, c'est de la viande, etc. » Il n'y a pas de viande, c'est que du spirituel, il n'y a que de l'immatériel. Et ça me convient bien. Donc, à la question de savoir, parmi les trois services du Kohen, les corbanotes classiques de viande, la menorah et les kétorettes, lequel est le plus important, lequel a le plus d'effet? Première réponse, c'est les kétorettes, parce que c'est la preuve visible du pardon après la faute du veau d'or. Ça, c'est la première chose que nous disent nos Chachamim. Deuxième preuve qui est proposée par nos Chachamim, c'est celle de Rabbi Yitzhak, dans le Midrash, encore une fois. Et là-bas, on nous dit comme ça. Teda lecha, sache, shenaase amishkan vechol kelav vechachat et korbanot veikri varach alamizber vesider et ashuchan vetamenorah vetakol velo yarda shrina. On nous dit qu'il y a eu un problème au moment plus tardif de l'inauguration du Mishkan. Quand on a inauguré le Mishkan, on a fini les travaux, on a tout installé à l'intérieur. On a mis la menorah, on a mis les trucs de sacrifice, on a fait des korbanotes. Et il n'y a toujours pas de Shrina qui vient se manifester à l'intérieur du Mishkan. À tel point que le peuple d'Israël a commencé à dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème, Dieu n'est pas avec nous. Qu'est-ce qui se passe ? » Et Aaron lui-même s'est inquiété en disant ah, « T'as vu Moshe, tu m'as envoyé construire le Mishkan et faire des korbanotes, tu te rends compte ? Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens, ils pensent que c'est à cause de moi, parce que j'ai fait le veau d'or. C'est à cause de moi que la Shrina ne vient pas se révéler, etc. » Donc, c'est une grande inquiétude dans
c'est
le peuple.
Oui,
bien sûr. Une grande inquiétude, une grande angoisse. La Shrina ne vient pas. Il n'y a personne. D'accord ? On fait tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui se passe. Et le Midrash termine. « Velo yardat Shrina, atche ikrivu et aketore. » La Shrina ne s'est répandue à l'intérieur du Mishkan qu'à partir du moment où on a fait les kétorettes. Ce fameux épisode des encens, c'est ça qui va déclencher la manifestation de la Shrina à l'intérieur du Mishkan. Donc encore une fois, une preuve que les kétorettes, ce n'est pas secondaire, ce n'est pas un petit truc pour amener une bonne odeur à l'intérieur du Mishkan, pas du tout. C'est une implication beaucoup plus forte puisque c'est la preuve du pardon du veau d'or et c'est également grâce aux kétorettes que la Shekhina, elle peut vraiment se répandre à l'intérieur du Mishkan et donc en réalité à l'intérieur du peuple d'Israël. Ça, c'est la deuxième preuve. On a une troisième preuve hyper intéressante qui crée une comparaison entre la création du monde et la construction du Mishkan. Sur quel point se joue cette comparaison ? Sur le point suivant. On nous dit qu'au moment de la création du monde, lorsque la création a été totalement terminée, Akadosh Baruch Hu a ressenti ce que est appelé par nos Chachamim de la simcha, de la joie. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, de la joie de Dieu, etc. Une sorte d'épanouissement, d'accord, d'équilibre parfait, de satisfaction de l'œuvre de la création. Dieu ressent de la satisfaction d'avoir créé le monde. Bien. À quel moment est-ce qu'il ressent cette satisfaction ? C'est lorsque la finalité de la création est mise en place, c'est-à-dire la création d'Adam et Ève. Tant que Adam et Chava ne sont pas créés, on nous dit « c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ». Lorsqu'il y a la création d'Adam et Chava, « Tov Meod », c'est très bien. Akadosh Baruch Hu ressent ce qu'on appelle de la simcha, satisfaction. Le mot « Meod », je vous rappelle dans la Torah, il s'écrit sans vav. Donc c'est même Aleph, Dalet. Et nos maîtres nous disent « Tov, Adam ». C'est les mêmes lettres que le mot « Adam ». Qu'est-ce qui procure la satisfaction d'Akadosh Baruch Hu après la création du monde ? C'est la finalité de la création, c'est-à-dire le méode, c'est Adam. Adam Arishon, dans son sens large, c'est-à-dire Adam et Chava. Lorsque Adam et Chava sont créés, il y a de la satisfaction. Bien. Eh bien, nos maîtres nous disent que la satisfaction ressentie au moment de la finalité de la création du monde, Akadosh Baruch Hu ressent exactement la même après la construction du Mishkan. Il y a plein d'enseignements qui nous disent que le Mishkan, c'est un microcosme de l'ensemble de la création du monde, que tous les éléments du Mishkan, ce sont tous les éléments de la création du monde, et que certains de nos Chachamim vont jusqu'à créer une comparaison entre tout ce qui est créé à chaque étape de la création et tous les éléments qui sont nécessaires pour la construction du Mishkan. Il y a eu un parallélisme qui est assez évident quand on le lit, du coup, entre la création du monde et la construction du Mishkan. Et on nous dit que Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il a terminé, que les hommes ont terminé la construction du Mishkan, il a ressenti la même joie qu'au moment de la création du monde. D'autant plus si on dit que le Mishkan est la réparation de la faute du veau d'or, et que du coup, après la faute du veau d'or, on revient à un niveau spirituel idéal. Et donc du coup, on peut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a une satisfaction à ce moment-là. Et nos maîtres posent la question et nous disent « S'il y a la même satisfaction qu'au moment de la création du monde, pour la création du monde, c'était au moment de la finalité qu'il a ressenti de la joie. La finalité, c'est Adam et Ève. Quand il a créé Adam et Ève, là, il a ressenti de la joie. Qu'en est-il pour le Mishkan ? » Eh bien, nos Chachamim répondent « C'est lorsqu'on a fait les kétorettes, Donc en fait, les Ketoret, c'est la finalité de la construction du Mishkan. C'est l'équivalent de Adam et Ève. Lorsqu'on a fait les Ketoret, Akadosh Baruch Hu a ressenti le même degré de satisfaction que lorsqu'il a créé Adam et Ève. Donc, c'est la troisième preuve qui nous montre à quel point les Ketoret sont extrêmement importantes aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Quatrième et dernière preuve, l'autel sur lequel on fait les Ketoret. Non, le Mizbéach. Le Mizbéach, l'autel. Il y a deux autels. Il y a l'autel à l'extérieur, dans la cour, là où on fait les Korbanot, avec la fameuse rampe, d'accord, qui nous permet d'accéder jusqu'en haut du Mizbéach. Et il y a un deuxième autel, plus petit, à l'intérieur, pardon,
dans le Kodesh.
D'accord, qui est juste devant donc le rideau du Kodesh HaKodashim, il y a ici l'autel des Ketoret. Eh bien, nos maîtres comparent lequel est le plus important entre les deux et ils nous disent, c'est évident, c'est même pas une question. L'autel des Ketoret est bien plus important que l'autel des Korbanot. Pour preuve, premièrement, il y en a un qui est à l'intérieur alors que l'autre est à l'extérieur, il est dans la cour. D'accord, donc ça n'a rien à voir, c'est incomparable. C'est les objets les plus sacrés qui sont à l'intérieur. Donc le Mizbéach des Korbanot, il est à l'extérieur et l'autre, il est à l'intérieur. Et deuxième preuve, c'est que les matériaux de construction ne sont pas du tout les mêmes, puisque pour l'autel des Korbanot, c'est en cuivre, recouvert cuivre, alors que l'autel des Ketoret est recouvert or. L'or est toujours considéré comme plus noble que les autres matériaux. Et donc, on nous dit que si c'est à l'intérieur et qu'en plus, c'est de l'or qui est utilisé, alors que l'autre, il est à l'extérieur et que c'est du cuivre, simplement du cuivre, on nous dit, bah, c'est clair, le plus important entre les deux, c'est les Ketoret. Donc, je résume ce qu'on a dit jusqu'à présent. Le Kohen, il a trois activités principales. Les Korbanot, la Menorah et les Ketoret. À la question de savoir lequel est le plus important et lequel a le plus d'incidence spirituelle, la réponse est claire dans toutes les sources que nous avons chez nos Chachamim. Les Ketoret ont une place incroyable et importante par rapport aux deux autres activités du Kohen. Bien. Une fois qu'on a remis les choses dans leur contexte, on a encore une nouvelle remarque. La remarque est la suivante. C'est que la Torah crée un lien entre la Menorah et les Ketoret. Comment est-ce que la Torah crée le lien? Je vous cite le Passouk, qui est extrêmement connu, puisqu'on le récite tous les jours. On nous dit comme ça. Vehiktir alav Aharon Ketoret Samim, baboker, baboker. Que Aharon, donc effectivement c'est Aharon hein, qui va faire ça, que Aharon va brûler les encens, baboker, baboker. Chaque matin, quand je dis chaque matin, c'est chaque matin. Shabbat, Kippour, tous les matins, ok? Je vous rappelle qu'à l'intérieur du Mishkan, il n'y a pas les lois du Shabbat. D'accord? On fait des korbanot, on allume la menorah, il n'y a pas de Shabbat. D'accord? C'est une bulle. C'est une bulle, le Mishkan, qui est en dehors du temps. On allume le feu pour allumer la menorah, on fait des korbanot, on allume les encens. C'est une bulle. Parce que quand tu es à l'intérieur du Mishkan, tu n'as pas besoin d'une preuve supérieure pour te rappeler que Dieu a créé le monde. Dans le Mishkan, ce n'est que de la manifestation divine. D'accord ? Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une activité habituelle comme ceux qui sont en dehors du Mishkan pour montrer que c'est Shabbat aujourd'hui et qu'il faut témoigner que Dieu a créé le monde. Quand tu es à l'intérieur du Mishkan, tu es dans la création, quoi. D'accord ? Tu es dans la centrale nucléaire de la création. Donc, à l'intérieur du Mishkan, effectivement, ces petites lois-là, ces grandes lois-là du Shabbat, effectivement, ne sont pas tenues.
Les Ketoret étaient. On pouvait rentrer dans le collège qu'une fois par an.
Ah, attention. Attention. Il y a deux sortes de Ketoret. Il y a les Ketoret de Kippour, qui sont dans le Kodesh à Kodashim. Et il y a les Ketoret des autres jours de l'année, qui sont simplement dans le Kodesh.
Ah, là où il y a la Menorah.
Bien sûr.
Oui, où il y a la table.
Bien sûr. Il ne faut pas oublier que les Ketoret, ce n'est pas que Kippour. Certes, il y a Kippour. Où tu rentres à l'intérieur et que ça t'attend qu'il y ait de la fumée partout.
Et
dans
c'est
la.
Où il y a le Lechem HaPanim aussi alors.
Bien sûr.
Mais dans le Kodesh, ouais. Kodashim, il y avait aussi le Lechem HaPanim.
Non.
Ah, il était que dans le Kodesh.
Que dans le Kodesh. D'accord. Dans le Kodesh, donc c'est une grande salle, imaginez une salle, d'accord, où il y a une séparation, un tiers, deux tiers. Dans la première partie, il y a les trois éléments du Kodesh. Le Kodesh se compose de la Menorah, l'autel des encens et la table des pains, le pain que mangeaient les Kohanim. D'accord ? Ensuite, il y a le fameux rideau. Et derrière le rideau, il y a le Aaron à Kodesh. Ça, c'est le Kodesh à Kodashim.
Il n'y a que le Aaron.
Et dans le Aaron, les tables de la loi, etc. Les Ketoret, où est-ce qu'on faisait brûler les encens ? Eh bien, toute l'année, c'est dans le Kodesh. Pas à l'extérieur, hein. Pas dans la cour, dans le Kodesh. Et le Kippour, c'est dans le Kodesh à Kodashim, où c'est tout ce qu'on raconte dans le Moussaf de Kippour, où le Kohen rentre, Kohen Gadol, il rentre à l'intérieur, il laisse la truc là, l'encensoir, et il y a plein de fumée qui remplit le Kodesh à Kodashim.
Donc il le déplaçait à l'intérieur, non ?
Non, pas l'autel, ouais, l'encensoir. Il venait avec son encensoir.
C'était visible, l'extérieur,
la menorah. Rien, personne ne voyait rien. Bah ouais. C'est l'intimité. L'intimité, c'est pas visible à l'extérieur. Tu retires tout. C'est comme le Kodesh à Kodashim. C'est encore plus intime que la menorah. Donc, t'as un endroit où les Kohanim, monsieur tout le monde Kohen, d'accord, il a le droit d'y aller, mais t'as l'endroit de l'intimité extrême. Ça, c'est le Kodesh à Kodashim. C'est qui pour quelques minutes, le Kohen Gadol.
Jusqu'à présent, même nous, on n'a pas le droit d'y aller, même si c'est pas construit.
Ah ouais, c'est clair. Ouais.
Que le Kohen Gadol.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a tout un truc pour savoir comment on le construit, etc. C'est tout un truc. Comment on fait les réparations, les travaux. Quand il y a un mur qui s'abîme, etc., comment on fait les travaux. C'est très intéressant. Ouais, oui, Laurent
disais, pourquoi on n'aurait pas poussé, entre guillemets, dans toute nos synagogues, à l'intérieur.
On
ne peut pas faire Shabbat quand on est à la synagogue.
mais les feux,
Ah, mettre un migdash, c'est mettre un migdash, c'est pas.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'avis de ceux qui disent que la faute du Hegel, elle était
On en parlera peut-être la semaine prochaine, ça. C'est la paracha de la semaine prochaine. Laisse tomber. Donc, je continue, messieurs. Donc, le lien entre les Ketoret et la Menorah, il vient du passouk que j'étais en train de vous citer. Le passouk nous dit « Veiktir alav Aaron Ketoret Samim baboker baboker » Aaron devait allumer, brûler plutôt les encens baboker baboker tous les matins de l'année. Attention, Behetivo est un erot yaktirena. À quel moment est-ce qu'il brûle les encens ? Il brûle les encens au moment où il nettoie la menorah. Où il nettoie la menorah. Je vous rappelle, la menorah n'était allumée que la nuit. Que le temps de la nuit. Quand il n'y avait plus personne d'ailleurs qui travaillait au Mishkan, c'est pas pour rien. D'accord ? On allume la menorah, elle s'éteint au petit matin. Mais on va pas la laisser dégueulasse pendant toute la journée, avec les taches d'huile, les trucs qui ont éclaboussé, les mèches toutes dégueulasses. D'accord ? Pas du tout. Dès le matin, le Kohen, les Kohanim devaient travailler pour nettoyer la menorah. D'accord ? Donc, on nous dit, à quel moment est-ce qu'on devait brûler les encens du matin ? Réponse, à l'heure où le Kohen nettoie la menorah de la veille et qu'il prépare en mettant de la nouvelle huile, en mettant la nouvelle mèche pour le lendemain, etc., pour le soir suivant. D'accord ? C'est à ce moment-là, en parallèle, quand il fait ça, il brûle les encens. Ça, c'est l'allumage du matin. Pas l'allumage, la combustion du matin. D'accord ? Le matin. Et le verset d'après nous dit « Uv ahalot aharon et anerot ben arbaim, yaktirena ketoret tamim lifne Hashem. » Et le soir, en fin de journée, lorsque le Kohen venait pour allumer la menorah cette fois-ci, on faisait brûler, pour une deuxième fois dans la journée, les Ketoret. Donc les Ketoret, c'est deux fois par jour. Une fois le matin, quand on nettoie la menorah et qu'on prépare la menorah. Deuxième fois, le soir, quand j'appelle soir, c'est fin de journée en réalité, l'heure de Mincha. D'accord ? Le soir, c'est là que quand le Kohen allumait la menorah cette fois-ci, c'est pas le nettoyage, c'est l'allumage, lorsqu'il allume la menorah, en même temps, il y a la mitzvah de brûler les Ketoret. Donc les Ketoret, c'est à Shacharit et à Mincha. Ben c'est ce qu'on fait dans notre filote à nous. On fait les Ketoret à Shacharit et à Mincha. Il n'y a pas de Ketoret à Arvit. De quoi trois fois ? Ah, Chazak, ok. Ça, c'est un autre sujet encore. D'accord ? Mais c'est donc, il n'y a pas trois fois de Ketoret dans la journée. Il n'y en a que deux. C'est une fois le matin, une fois le soir.
Ben
on est bien ?
Mais non, mais c'est avant l'Ashkia ou pas ?
Bien sûr. Ah bah oui.
Non, c'était la même chose.
Ok. Je continue. Donc, ce qui est évident, donc, c'est que la Torah, c'est la Torah qui crée le lien entre la menorah et les Ketoret. Et le lien en question du matin, juste pour terminer la dernière idée de notre cours, le lien du matin est très particulier. Je vous dis pourquoi. Je veux juste un pâte à Eliyahu. Merci. Regardez comment ça marchait. Abaye. Ava mesader seder amaracha mishema nigbara de Abba de Aliba de Abba Shaoul. Dans la tefila du matin, qu'on lit tous les matins. Pour ceux qui viennent tôt. D'accord, c'est avant Oudou. C'est avant Oudou.
Il y a encore moins de monde.
Ouais. Dans ce texte-là, il y a un enseignement au nom d'Abaye. Abaye nous dit, voilà le travail qui était effectué par les Kohanim, le matin de manière générale. Voilà dans quel ordre c'était effectué. Et cet enseignement-là, il le donne au nom de Abba Shaoul. C'est bien ce qu'il y a écrit dans le texte. Abaye, qui est un Amora, c'est un maître de l'époque de la Gemara, il avait l'habitude de rapporter un enseignement sur les activités du Kohen le matin au nom de Abba Shaoul. Abba Shaoul, c'est un Tana. C'est un Tana de l'époque de la Mishnah, qui vit à l'époque de Rabbi Akiva. Donc Abaye est bien plus tardif que Abba Shaoul. Que nous dit Abba Shaoul ? Donc c'est l'opinion d'Abba Shaoul. Qu'est-ce que nous dit Abba Shaoul ? Il nous dit voilà comment ça marchait, en résumé. D'abord, le matin, le Kohen il arrive sur l'autel des Korbanot, il monte. Il y a un grand brasier en haut sur lequel on faisait les Korbanot. Ce brasier-là, il faut le nettoyer, il faut l'entretenir tous les matins. Donc la première chose que faisait le Kohen, c'était de nettoyer le grand brasier qui était posé en haut du Mishkan, du Mizbeah. Ensuite, Maracha Gedola, Kodemet, les Maracha Shenia Shel Ketoret. Il y avait un deuxième brasier, plus petit. Ce brasier-là, à quoi il servait ? Tout simplement à récupérer des braises pour allumer les Ketoret. Donc il y a un brasier complet, il y a un brasier sur l'autel des sacrifices qui était nécessaire pour récupérer les braises et le charbon pour brûler les Ketoret à l'intérieur du Kodesh. Et ça aussi, il fallait le nettoyer tous les jours, il fallait l'entretenir, s'assurer qu'il y avait le feu qui était allumé, etc., etc. Et il y avait aussi un troisième brasier. Okay, en haut, en réalité, il y a trois brasiers. Il y a pas mal d'activités hein, là-haut, hein, c'était quand même assez grand. Donc il y a des allers-retours, des machins. Voilà ce qui se passe. Okay. Et regardez ce qu'il nous dit. Va'atavat ramesh nerot kodemet les damatamid. Vedamatamid kodem la tavat chitenerot. Va'atavat chitenerot kodemet liktoret. Octoret les varim, bevarim les mincha, mitra la chavitin. Il nous dit, il y a un truc très spécial dans la façon dont on préparait les ketoret. On a dit que c'était lié au nettoyage de la menorah. C'est ce qu'on a dit le matin. Eh bien, ça marchait comme ça. D'abord, le Kohen nettoyait 5 branches de la menorah. 5. Il en nettoyait 5. Ensuite, il s'arrêtait. Il allait faire le korban tamid, donc le korban du matin. Une fois qu'il a fait le korban tamid, il revient à l'intérieur pour nettoyer les deux branches de la menorah qui manquaient dans le nettoyage. Et une fois qu'il avait terminé ce nettoyage-là, il faisait les ketoret. D'accord ? C'est ce qu'on dit tous les matins. C'est un peu bizarre comme façon de faire. Le 5 et 2, c'est surprenant. Ça nécessiterait peut-être un approfondissement. Je ne l'ai pas là dans mes mains. Mais c'est en tout cas, c'est comme ça que ça se faisait. Il nettoyait 5. Ensuite, il sortait faire le sacrifice. Il revenait à l'intérieur nettoyer les deux qui manquent. Donc la menorah est propre, ça y est. Et une fois que tout est propre, il fait les ketoret. Hein ? Non, on a déjà dit 2. Il fait 5. Il fait le korban. Ensuite, il nettoie 2. Donc ça y est, tout est propre. Et ensuite, il brûle les ketoret.
Pourquoi il ne fait ça qu'un ?
C'est ce que je viens de dire. Ça nécessiterait un cours. Je n'ai pas encore d'éléments nécessaires sur ça. On est bon ? C'est comme ça que ça se passait. Bon, ok, ça se passait comme ça. Mais le truc qui est surprenant, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on faisait. Ce n'est pas la halakha. C'est l'opinion d'Abba Shaoul, comme on le dit nous-mêmes. On insiste sur ça. Abaye avait l'habitude de donner l'enseignement au nom de Abba Shaoul. Si on insiste tant, nous disent nos maîtres, c'est qu'en réalité, ce n'est pas la halakha. Abaye avait l'habitude de rapporter l'opinion d'Abba Shaoul, mais ce n'est pas la halakha. La halakha, en fait, il y avait une marloquette entre Abba Shaoul et les Chachamim, et la halakha était tranchée comme les Chachamim. Non. Comment est-ce qu'il faisait? Alors, c'est très simple. Pourquoi je vous dis que c'est très simple? Parce que c'est ce que l'on dit nous-mêmes tous les ans pendant la journée de Kippour. Dans la tfila de Moussaf de Kippour, il y a le service du Kohen. Et dans le service du Kohen, là-bas, on a un enseignement qui ressemble à celui-là. Mais qui n'est pas exactement celui-là. Parce que ce n'est pas l'enseignement au nom de Abba Shaoul, c'est l'enseignement au nom des Chachamim. Et là-bas, c'est oui la halakha. Alors du coup, comment on faisait en vrai? Voilà comment on faisait. Comme je viens de vous le dire, on nettoyait d'abord 5 nérotes, 5 branches de la menorah. Ok. Ensuite, on faisait tout de suite les kétorettes. Ensuite, on allumait les deux branches, on nettoyait les deux branches qui manquent. Et ensuite, on faisait le korban atamid. C'est comme ça qu'on faisait pour de vrai. C'est l'opinion des Chachamim. C'est ça la halakha. Pour le nettoyage, c'est pas sur ça la marloquette. Sur le nettoyage, c'est 5 et 2, tout le monde est d'accord, va savoir pourquoi. 5 et 2, c'est comme ça que ça marchait. Mais ce qu'on faisait entre le 5 et 2, d'après la halakha, donc d'après les Chachamim, on faisait les kétorettes. Alors que d'après Abba Shaoul, on faisait le korban atamid entre 5 et 2. Et que c'est ensuite qu'on faisait les kétorettes. À la fin, une fois qu'on avait tout terminé, on faisait les kétorettes.
On fait d'abord le plus fréquent et après
on... Non, rentre pas là-dedans. C'est pas du tout le truc. Parce que tu peux pas dire c'est quoi le plus fréquent. Abba Shaoul ? Ouais.
Il était vivant au niveau du...
Pas du tout. C'est un Amora. C'est un Amora, il a vécu après la destruction du Beth Amikdash.
Donc aucun des deux était là.
Qui ? Abaye ?
Ouais, c'est sûr.
Abaye, c'est un Amora. Abba Shaoul, lui, effectivement, qui Abba Shaoul, c'est un Tana, à l'époque de Rabbi Akiva. Donc on sait que Rabbi Akiva, il a vu le Beth Amikdash.
Ah, il a vu.
Bien sûr, Rabbi Akiva.
Il peut s'appuyer sur quoi lui, il a vu.
Razak, et pourtant, c'est pas son opinion qu'il a là.
D'accord, mais. Et les Rami, ils ont vu aussi?
Bien sûr.
Non, bien c'est dit.
Mais oui, bien sûr. Non, les Rami, ils l'ont vécu aussi, comme Abba Shaoul. Il y a une marloquette pour savoir comment il faut faire.
Les Rami, pour savoir, ils avaient un manuel.
Alors, le manuel, c'était qui? C'était les Chachamim.
C'est pas eux qui ont inventé qui...
Certes, les Chachamim, c'est eux qui ont tranché. Voilà comment il faut faire. Il y a une discussion pour savoir comment il faut faire, comme toutes les marloquettes qu'il y a dans la Gemara. C'est pas rare d'avoir une marloquette. Là, c'est vrai que c'est un peu surprenant, parce que c'est sur une pratique. Sur une pratique, on peut dire, bah attends, c'est quand même bizarre. La pratique, elle est historique. Bah, il semblerait, et c'est la preuve du texte, il semblerait qu'il y a un moment où il y a eu un bug... Et que peut-être qu'après la destruction du premier temple, avant la reconstruction du deuxième, il y a une discussion qui s'est immiscée à l'intérieur du peuple. Ah tiens, comment on fait déjà? Est-ce qu'on fait d'abord les kétorettes? Est-ce qu'on fait d'abord le korban atamid?
Mais c'est pas indiqué dans la Torah ou...
Non, si c'était écrit dans la Torah, il n'y aurait pas de marloquette. Il n'y a pas écrit dans la Torah. Donc il y a une sorte de tradition orale qui s'est peut-être un peu abîmée à un moment. Et donc il y a une marloquette. La marloquette, elle est tranchée, comme les Chachamim, point final. Et pourtant, Abba Shaoul, lui... Il n'est pas d'accord avec cette opinion-là. Il a le droit, c'est une marloquette des Tanaïm. Les Tanaïm ont le droit d'être en marloquette. Mais ce qui est surprenant, c'est que Abaye, qu'on lit tous les jours, que Abaye rapporte l'opinion de Abba Shaoul, alors que ce n'est pas la halakha. Ça, c'est très surprenant. Pourquoi il rapporte cette opinion-là? C'est bizarre. Ben non, certainement pas. Ça, on ne peut pas imaginer que les Hattis de Lavaux, ça soit comme une opinion isolée. Mais Abba Shaoul aussi, c'était une marloquette.
Il y a un des deux.
Forcément. Donc la question est savoir pourquoi est-ce que Abaye, il rapporte l'enseignement au nom de Abba Shaoul, et pourquoi nous,
on lit tous les jours
une opinion qui n'est pas la halakha. Tu demandes à n'importe quel gamin de 5 ans, tu lui dis, hey, mon petit, viens me raconter, toi qui fais ta tefila tous les matins, comment on travaillait au Mishkan? Il va te dire, bah, c'est très simple, je connais ma tefila. Donc dans la tefila, il est écrit, on nettoie d'abord le grand brasier, ensuite on fait le petit brasier, ensuite on nettoie 5 flammes, d'accord, une fois qu'on a fait les 5 flammes, on va faire le korban atamid, ensuite on nettoie 2, ensuite on fait les koitorettes. N'importe quel gamin de 5 ans va le faire. N'importe quel. Donc du coup, on dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi nous on raconte un texte qui n'est pas la halakha? D'autant plus qu'à Kippour, on dit le bon texte. D'accord? Et pourquoi à Kippour, du coup, on ne garde pas l'opinion de Abayé aussi dans le Moussaf de Kippour? On aurait dû dire, bah voilà, on garde Abayé dans le Moussaf de Kippour aussi.
On saura jamais.
C'est quoi cette histoire? Mais si, bien sûr, parce que tu es là ce soir. Et la réponse est la suivante. C'est qu'on doit bien comprendre que tout ce qui est fait au Mishkan, c'est pas simplement des gestes, c'est pas une gestuelle. Ça a des répercussions symboliques, ça apporte des valeurs, ça apporte une implication spirituelle, etc., etc. C'est évident. Bien. Une fois qu'on a dit ça, les korbanot, c'est à l'extérieur. Les korbanot, c'est de la viande. Les korbanot, ça correspond à notre partie, à nous, physique, de notre corps. Bestial, animal, on a besoin de manger. Quand on commet des fautes, exactement. Quand on commet des fautes, c'est matériel. Il faut sacrifier sa part bestiale que nous avons en nous. C'est ça la symbolique des corbanotes, etc., etc. C'est les corbanotes. Ok, c'est la viande. Les kétorettes, c'est la spiritualité. Les kétorettes, c'est la neshama. Les kétorettes, c'est beaucoup plus raffiné que la viande. La viande, c'est ce qu'on mange. Les kétorettes, c'est ce qu'on sent. Ce que l'on sent, on dit partout dans la Havdala, le samedi soir, etc. Ce que l'on sent, ça vient animer, alimenter notre neshama. Ce que l'on mange, ça alimente notre corps. Mais ce que l'on sent, c'est pour notre neshama. Les kétorettes, c'est beaucoup plus raffiné que les korbanotes. Ça, on l'a compris depuis le début, d'accord. Les kétorettes, c'est un truc un peu plus fin. De manière générale, nos maîtres nous disent, enfin la Torah nous dit, les kétorettes, c'est en même temps que la menorah. Il y a un lien avec la menorah et les kétorettes. Ce lien-là, il est très simple. La menorah, c'est quoi? C'est les flammes de la kedusha, de la pureté, de la sainteté. C'est le potentiel exprimé du peuple d'Israël. C'est les flammes. Les kétorettes, c'est l'aspiration à ressembler aux flammes de la menorah. Les flammes, c'est le modèle. Ça brûle, c'est magnifique, c'est une belle flamme. Les kétorettes, on les fait en même temps que la menorah, on crée le lien avec la menorah, pour nous dire que c'est notre neshama qui aspire à ressembler aux flammes de la menorah. C'est pour ça que la Torah crée un lien entre la menorah et les kétorettes. Bien. À l'époque où on avait le Bet Amigdash, à l'époque des Chachamim, à l'époque idéale où on se faisait le service du Bet Amigdash, à quel moment est-ce qu'on allumait les kétorettes? Eh bien, c'était en plein milieu de l'entretien de la menorah, parce que ça correspondait. On était à ce niveau-là. Il y avait Dieu qui se manifestait, notre potentiel, on arrivait à le ressentir plus facilement. Donc, quand tu allumes ou tu nettoies ta menorah, en plein milieu du nettoyage de ta menorah, tout de suite, tu fais les kétorettes, parce que tes kétorettes ressemblent à la menorah. La passerelle, elle est fine, elle est là, elle est évidente. D'accord? On est à l'époque du Bet Amigdash. Mais Abayé, lui, il ne vit pas à l'époque du Bet Amigdash. Il vit après la destruction du Bet Amigdash. Et il vient nous dire, l'opinion que je veux rappeler à notre époque, à nous, ce n'est pas celle des Chachamim, où effectivement les kétorettes sont au niveau de la menorah et qu'on arrive à faire le lien facilement. À cette époque-là, après la destruction du Temple, dit Abayé, ce qu'il faut se rappeler, c'est que malheureusement, il y a un décalage énorme entre les kétorettes et la menorah. Et donc, pour manifester ce décalage, on finit complètement l'entretien de la menorah. Et quand on a fini l'entretien de la menorah, ensuite, on fait les kétorettes. Parce qu'on n'est pas au niveau pour faire les kétorettes en plein milieu, pendant le même geste que la menorah. C'est des trucs différents. D'abord, tu fais 5. Ensuite, tu vas faire un korban. Le korban, ça montre que tu es encore trop physique. Et que ce qui correspond encore à la menorah aujourd'hui, ce n'est pas les kétorettes, parce qu'on n'est pas au niveau des kétorettes. On n'est qu'au niveau du corps, de la bestialité. Donc quand on allume la menorah, ce qu'on doit évacuer de nous, c'est le korban. C'est d'aller sacrifier notre corps. Ensuite, tu vas nettoyer tes deux dernières. Et une fois que tu auras tout fait, nettoyer ta menorah, fais un korban pour sacrifier ta partie physique. Ensuite, tu peux allumer les kétorettes. Parce qu'on n'est pas au niveau du Bet Amigdash. On est après la destruction du Bet Amigdash. Donc là, l'opinion de Abba Shaoul, elle correspond effectivement à la chute spirituelle du peuple d'Israël après la destruction du Bet Amigdash. Mais pendant la journée de Kippour, même si on n'a pas le Bet Amigdash, on dit qu'on est comme des malachim. on a une sensibilité spirituelle qui est beaucoup plus élevée, beaucoup plus fine. Donc pendant la journée de Kippour, pendant le Moussaf de Kippour, qu'est-ce que l'on rappelle comme opinion? On nous rappelle l'opinion des Chachamim. On est au niveau où on peut faire les kétorettes en même temps que le nettoyage de la menorah. C'est pour ça qu'à Kippour, on ne rapporte pas l'opinion de Abba Shaoul dans le Moussaf, mais on rapporte l'opinion des Chachamim.
Pourtant, on le lit
quand même. Mais pas dans le Moussaf. Le Moussaf, c'est là où on est vraiment au top niveau. On est le Kohen Gadol. Le Moussaf, quand on lit le Moussaf, c'est comme si c'était toi le Kohen Gadol et qui allait pénétrer l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Donc là, quand tu es à ce niveau-là, c'est comme s'il n'y avait pas la destruction du Beth Amikdash. Et donc, on est sur l'opinion idéale. On fait les kétorettes quand on est en train de nettoyer la menorah, en même temps. Alors que la réalité, malheureusement, c'est qu'on n'est pas à ce niveau-là. Et que quand d'abord on nettoie toute la menorah et qu'on fait le Korban HaTamid, ensuite on fait les kétorettes comme l'opinion d'Abba Shaoul, qui n'est pas là à l'Acha, mais qui correspond le plus à l'époque dans laquelle nous sommes, où il n'y a plus de Beth Amikdash. En tout cas, ce que ressort de tout ce qu'on a dit, c'est que les kétorettes, en fait, c'est bien plus important que ce qu'on pense. C'est bien plus important qu'un texte qu'on lit en 30 secondes, à Shacharit quand on le fait déjà, et à Mincha quand aussi on le fait, et qu'on ne fait pas directement, allez, Ashrei Amida, d'accord, et en 5 minutes c'est réglé. Les kétorettes, c'est ce qui amène, qui encadre la tefila, pour que ça puisse monter haut, que Akadosh Baruch Hu puisse se manifester, que la Shrina descende dans le Mishkan, que ça vient témoigner du pardon de la faute du Vaudor. Donc c'est pas un texte qu'on doit lire à la va-vite, dont on doit se débarrasser. C'est un texte qui est important, la preuve en est pour tout le cours qu'on a donné ce soir, et que c'est pour ça que certains ont l'habitude de lire les kétorettes doucement, de donner du sens, de les lire sur un klaf, de les lire sur un parchemin, comme si c'était un texte kadosh. Parce que effectivement, il y a dans les kétorettes une kedusha qui est particulièrement importante, et on en a vu ici quelques-uns des points qui sont effectivement un peu originaux, mais qui sont développés par nos chachamim dans la tefila que l'on récite tous les matins.
Certaines religions utilisent aussi les kétorettes.
Bien sûr, bah, tu rigoles.
Quel est le
sens ? Bah, c'est de chez nous. Ce qu'on voit dans la chrétienté. Bien sûr que oui.
Ça veut dire qu'on ne pourra plus l'utiliser.
Non, parce que ça c'est la Torah qui nous l'ordonne. Quand c'est la Torah qui t'ordonne quelque chose, alors bien, c'est sûr, même si les autres nations elles font comme nous, là tu t'abandonnes pas. Mais ils savent pertinemment que c'est par rapport au Kohanim et par rapport au Beth Amikdash. Quand dans la chrétienté, dans les grandes messes, etc., tu as l'encensoir, les encens et le pape et le machin, d'accord, c'est le travail du Kohen Gadol, bien évidemment, puisque eux ne font que dire que c'est eux les vrais peuples d'Israël, c'est eux les vrais Kohanim, c'est eux les vrais prêtres, etc. Bien évidemment, le vêtement blanc du pape, etc., c'est les vêtements des Kohanim, d'accord, qui rentrent à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, hein, c'est pas rien.
Ils auraient jamais dû suivre eux, les
hommes. Donc c'est évident, c'est tout le Mishkan. De quoi je sais pas, dans la chrétienté, il y a, c'est clair. Chez les musulmans, je sais pas s'il y a. Le quoi? À savoir. En tout cas, dans la chrétienté, c'est évident, présenté comme ça. Et même la façon dont ils ont de couper le pain dans les offices religieux, la façon de couper le pain en faisant une croix sur le pain. Tout le monde dit, ah, c'est la croix de truc. En fait, pas du tout. Les Kohanim coupaient le pain de cette façon-là. Ils faisaient une croix sur le pain et ils rompaient le pain. D'accord, alors nous, pourquoi une croix? À l'époque, ça choquait personne. D'accord, c'était un signe comme un autre.
Non, mais pourquoi le couper du coup
Je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils faisaient. Donc en réalité, tout le service, ils ont puisé dans le service de la Keuna de la Torah. C'est évident.
C'est
hyper. Bah oui, forcément. Ah bah forcément. Ok, Chazak ou Baruch. Allez, Gmara.